Des fragments de rouille humaine. Nouvelle de Marcus Leitch. Collection Exotère. Édition Souffle du rêve. Les doigts de Julien Champier couraient sur le clavier, se livrant à une gigue frénétique, au gré des fantaisies de son inspiration. Dès qu'il se lançait dans l'écriture d'un nouveau texte, il ne contrôlait plus complètement son imagination. Ses idées prenaient le dessus en une succession de vagues, brèves et violentes à la fois. Cet impérieux besoin se manifestait dès le réveil, souvent après une période de repos. Un léger mal de tête précédait cet état fébrile qui prenait possession de son être pendant des heures, quand ce n'était pas des jours ou des semaines, lorsque le flot d'idées se transformait en roman. Les éditions de la Noria lui avaient commandé une histoire pour leur anthologie annuelle de fantastique gothique, et depuis plusieurs jours il tournait en rond dans l'attente de ce moment où l'inspiration prendrait le dessus, noyant toute autre pensée, tout autre désir. Comme une maladie qui vous ronge complètement, pareil à un vampire qui aurait sucé jusqu'à sa moelle. Ses doigts s'arrêtèrent de danser sur le clavier, comme s'ils avaient besoin de reprendre leur souffle, avant d'aller plus loin. Il essaya de relire ce qu'il venait de taper, mais les mots se dérobaient à son regard. Il savait qu'il était inutile d'insister. Il ne pourrait rien faire tant que le texte n'aurait pas reposé un minimum. Souvent, il se disait que l'écriture n'était rien d'autre que de la cuisine dont on aurait remplacé les ingrédients par des mots. Il quitta sa chaise et se prépara une tasse de café, la première d'une longue série, qui ne prendrait fin qu'au moment où il apposerait sa signature sur la dernière page du manuscrit. Il ne buvait du café que dans ses périodes de fièvre créatrice. Le reste du temps, il n'en prenait pratiquement jamais. Ce rituel du café était venu dès ses premières tentatives d'écriture, à la fin de son adolescence. Depuis, il n'avait jamais pu y échapper, malgré plusieurs essais pour remplacer le café par du thé. Dès sa tasse bue, il pouvait retrouver sa place devant l'ordinateur. Ses doigts reprenaient aussitôt leur course folle sur les touches, sautant de l'une à l'autre avec une étonnante dextérité, comme si soudainement ils s'étaient séparés de la main pour retrouver leur indépendance. Des yeux, il suivait sur l'écran la progression des lettres. À ce stade, il n'était pas question de mots et encore moins de phrases. Uniquement une succession de caractères et d'espaces. Ce n'est qu'au bout de quelques heures de travail qu'il commencerait à percevoir l'ensemble comme un tout. Comme figé dans une transe hypnotique, il observait cet alignement de signes noirs qui semblait ne pas vouloir s'arrêter, quand un imperceptible mouvement attira son regard. Un mouvement tellement inattendu qu'il en eut un sursaut. Il tourna la tête vers le bout de couloir qui apparaissait dans l'entrebâillement de la porte. Un chat noir l'observait. « Comment es-tu entré, le chat ? » demanda-t-il à voix haute, en s'adressant au félin. Il se leva, l'animal disparut aussitôt, comme s'il s'était évanoui dans l'air. En vain le chercha-t-il dans tout l'appartement. Il n'était nulle part, ni sous le lit, ni sous les meubles. Au cours de ses recherches, il constata que les fenêtres étaient correctement fermées. Il s'en inquiéta. C'était bien la première fois qu'il était victime d'une hallucination de ce genre. Cela ne faisait aucun doute pour lui, cette apparition ne pouvait être rien d'autre qu'un fantasme né de son imagination survoltée. Il retrouva sa place devant son ordinateur. Mais cette fois-ci, il fut incapable de reprendre le cours de son récit. Les signes avaient laissé la place à des successions de mots. La magie était rompue. Son regard accrocha quelques lignes par-ci par-là. D'immenses ailes membraneuses, bâtisses, de la nuit des temps. Abraxananta, une sorte de feulement. Abraxananta, répéta Julien Champier. Le mot avait une consonance familière. Il devait l'avoir dans la tête depuis longtemps. Il parcourut rapidement une encyclopédie en plusieurs volumes qu'il gardait en permanence sur sa table de travail. Le mot n'y figurait pas. L'avait-il inventé ou bien l'avait-il entendu quelque part, peut-être lors d'un de ses voyages dans une contrée lointaine ? Abraxananta, répéta-t-il une nouvelle fois. Un bref sourire adoucit son visage grave, puis le chat noir revint hanter ses pensées et un frisson le parcourut de la tête aux pieds. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était déjà midi. Il sortit. Chaque fois qu'il travaillait sur un texte, il éprouvait le besoin de marcher un peu. Cette promenade rituelle cassait cette frénésie intérieure qui s'emparait de lui dans ces moments-là, tout en lui permettant de prendre un peu de recul vis-à-vis de son texte et d'y voir plus clair dans ses idées. Parcourant d'un pas nonchalant les rues bruyantes du quartier, il explorait mentalement certaines scènes dans le moindre détail, au point de ne plus rien voir de ce qui l'entourait. Il se demanda pourquoi il avait mis en scène ces quatre chasseurs de démons, deux hommes et deux femmes. Ce genre de personnage ne lui ressemblait guère. En général, il écrivait un fantastique plus intimiste, plus réaliste. Ces personnages n'avaient beau être que des créatures nées de son imagination, ils provoquaient en lui une indéfinissable angoisse. C'était bien la première fois qu'il ressentait une telle impression. Une fraction de seconde, il se demanda s'il n'était pas malade. Perdu dans ses pensées, il faillit heurter un jeune couple qui arrivait en sens inverse. « Excusez-moi, » dit-il en s'écartant vivement. Ils avaient tous les deux un regard froid, étrangement perçant, et paraissaient tatoués sur tout le corps, si on en jugeait par les dessins qui recouvraient leurs mains et leurs cous. Cette rencontre, aussi courte fut-elle, l'imprégna fortement, au point qu'il finit par ne plus penser qu'à cet étrange couple. Il savait l'avoir déjà croisé dans le quartier, lorsqu'il allait faire ses courses. Il écourta sa promenade. Quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Peut-être ce malaise intérieur qu'il ressentait depuis ce matin. Était-il dû à l'excitation provoquée par l'écriture de ce nouveau texte? Il avait beau essayer de s'en convaincre, il n'y croyait pas vraiment. Il n'avait jamais ressenti une telle impression jusqu'ici. Il se prépara un sandwich et un café, puis essaya de reprendre son travail. Impossible d'aligner le moindre mot. Il lut machinalement la première phrase de son histoire. Des fragments de rouille humaine tombaient sur la cité en une pluie ininterrompue. « Des fragments de rouille humaine », répéta-t-il. Pourquoi avait-il choisi cette phrase comme amorce? Il était incapable de justifier ce choix, mais il avait l'impression que cette idée ne lui appartenait pas. « Bon, se dit-il, ce n'est pas aujourd'hui que je vais avancer dans mon travail. » Il passa plusieurs coups de fil. Il éprouvait soudain le besoin de voir du monde et il avait une envie pressante de se changer les idées. François Joly, un ami écrivain, accepta avec sa femme son invitation ainsi qu'une voisine, Sylviane, qu'il connaissait de longue date. La soirée fut des plus agréables. Avec François et Claudine, ils pouvaient aborder n'importe quel sujet sans problème. Tous deux possédaient une érudition hors du commun. Sylviane, elle, était prof d'histoire et était incollable sur la plupart des civilisations de l'Antiquité. En dehors de ça, sa culture était essentiellement télévisuelle. De ce côté-là, elle pouvait parler pendant des heures de la moindre série TV. À minuit et demi, le couple s'en alla. Sylviane resta, comme chaque fois qu'elle passait la soirée ici. Tandis que Julien Champier revenait dans le salon, après avoir accompagné le couple jusqu'à la porte, il surprit la jeune femme en train d'observer une statuette représentant une licorne. Ce n'était pas la première fois qu'elle observait l'objet ainsi. « Tu vas t'user les yeux à force de regarder cette babiole comme ça, » remarqua l'écrivain. L'animal mythique était taillé dans le cristal le plus pur. De la pointe de la corne à la queue, la statuette ne dépassait guère une trentaine de centimètres. Le maître de séant l'avait rapporté d'un séjour dans l'Amazonie. « Cette babiole, comme tu dis, a quelque chose de fascinant. À mon avis, il s'agit d'un objet de très grande valeur. » « Non, je ne pense pas. Là où j'ai trouvé cette chose, il y en avait des milliers d'identiques, comme un objet manufacturé selon les procédés modernes. » La jeune femme secoua la tête. « Non, Julien, cet objet est bien trop parfait pour cela. Il a été taillé manuellement par un artiste. » « Regarde-moi ça, pas la moindre trace de poinçon. » Et, changeant de sujet à brûle-pourpoint, elle remarqua. « Tu dois avoir de l'humidité dans les murs. J'ai aperçu de minuscules taches de rouille sur la tapisserie. »« Des taches de rouille ? Je n'ai rien remarqué. » Elle lui montra divers points de couleur ocre qui maculaient la tapisserie. Ils n'étaient pas particulièrement visibles, mais ils étaient bien là. La première phrase de sa nouvelle lui revint en mémoire. Des fragments de rouille humaine tombaient sur la cité en une pluie ininterrompue. Il regarda de plus près les taches. Non, il ne s'agissait que de simples taches d'humidité. Il chassa aussitôt ce sujet de ses pensées et enlaça tendrement la jeune femme. Il passa la nuit avec Sylviane. Celle-ci s'éclipsa tout de suite après le petit déjeuner. Il essaya de se remettre au travail. Comme il n'y arrivait pas, il imprima ce qu'il avait tapé la veille, saisissant les feuilles au fur et à mesure qu'elles jaillissaient de la machine. Puis il se décida à lire sa prose. Des fragments de rouille humaine tombaient sur la cité en une pluie ininterrompue. la flèche de la tour gothique surplombant les toits les plus hauts d'une bonne centaine de mètres grouillait de formes sombres qui se détachaient en grappes plus ou moins compactes. Parfois, durant le temps assez bref que durait la chute, un corps élancé prenait son envol, déployant d'immenses ailes membraneuses pour revenir vers les hauteurs du bâtiment, tandis que ses congénères allaient s'écraser lourdement sur le sol, avec un écœurant bruit de chair, pareil à un fruit trop mûr qui s'éclate sous un choc trop violent. Tout de suite après, dans l'ombre des ruelles, des choses se mettaient à ramper, loin des corps sans vie, en poussant d'étranges gémissements. Chaque nuit, passé minuit, les créatures de la nuit arrivaient, venues de nulle part, et dès lors la ville devenait leur, du moins en apparence. Car les créatures ne paraissaient pas capables pour autant de tirer le moindre parti de la domination qu'elles exerçaient sur les ténèbres. Pas plus que les humains, qui se terraient derrière leurs volets clos, ne prenaient totalement possession du jour qui était leur. Julien Champier arrêta soudainement sa lecture. Guidé par il ne savait quel signal, il releva la tête et observa le mur devant lui. Ce qu'il vit ne fut pas pour le rassurer. Il s'approcha, toucha d'une main hésitante la surface rugueuse de la tapisserie. On dirait que les taches se sont développées depuis hier soir. Que se passe-t-il donc? Il fit le tour du bureau, puis du salon. Partout l'humidité semblait prendre possession des murs. Il toucha de nouveau la tapisserie. Elle était sèche. Il gratta quelques points de rouille. C'était vraiment étrange. Cela ne ressemblait à rien qu'il ait déjà vu. Une sensation de démangeaison au-dessus de l'œil gauche l'amena à se frotter le front. Une minuscule bestiole courut sur sa main. Il la fit tomber d'un mouvement sec. Elle ressemblait à une araignée. Elle s'enfuit à une vitesse qu'il ne s'attendait pas à trouver chez un insecte de ce genre. Elle disparut sous le bureau, hors de sa vue. Il se frotta le front. Il avait apparemment été piqué. Il alla chercher à la cuisine du vinaigre dont il enduisit un Kleenex, une recette de bonne femme qui avait toujours fait ses preuves chez lui. Il revint dans son bureau pour reprendre la lecture de son texte. Pas plus que les humains qui se terraient derrière leurs volets clos ne prenaient totalement possession du jour qui était leur. « Dormez en paix, braves gens !» annonça un homme squelettique, en faisant tinter les clés du lourd trousseau qu'il tenait à la main. On le nommait « gardien de la cité ». D'autres disaient « gardien des clés ». Personne ici ne connaissait rien d'autre de lui, pas même le lieu où il se terrait dans la journée. « Dormez en paix » répéta-t-il plusieurs fois de suite. « Dormez en paix, les clés sont entre mes mains. » Trois fois dans la nuit, il parcourait le centre de la ville comme un propriétaire veillant sur son bien. Et peut-être en allait-il ainsi. Peut-être était-il réellement le propriétaire de ces vieux bâtiments, de ces pierres anciennes qui avaient connu bien des étrangetés. Inlassablement, chaque nuit, il traversait la cité en aveugle, étranger aux créatures de l'ombre, insensible à l'appel des ténèbres. Et puis, avec la venue de l'aube, la ville retrouvait son aspect tranquille. Le vivant reprenait possession des rues et des bâtiments, et les créatures disparaissaient sans laisser la moindre trace, comme si elles n'avaient jamais été là. Jour et nuit, nuit et jour, en un cycle qui paraissait immuable, ou presque. Un jour, avec le lever du soleil, l'ordre des choses changea. Surgissant des lointains embrasés par l'astre levant, arrivèrent quatre silhouettes de sombres vêtues, chapeaux à large bord et capes de cuir noir. Deux hommes et deux femmes. Leurs bras nus étaient couverts de tatouages. Des bagues et des pointes d'argent ornaient leurs mains. Jamais on ne les avait vus dans la région. Julien Champier reposa le manuscrit. Il n'avait pas la tête à lire. Ses yeux se dirigèrent instinctivement vers le mur. Depuis tout à l'heure, la rouille semblait avoir encore repris sa progression. « Non, c'est impossible, se dit-il. Ce ne peut être qu'une impression. » Il aperçut sa bestiole qui courait sur le mur. Il allait se lever pour l'écraser de la main, mais y renonça. Après tout, ce n'était qu'un insecte parmi tant d'autres, et lui aussi avait bien le droit de vivre sa vie d'arachnide. Il ferma les yeux. Décidément, il avait besoin de repos. Dès qu'il aurait terminé son texte, il partirait une dizaine ou une quinzaine de jours. Un bruit le fit sursauter. Sylviane surgit du couloir. « Je ne te dérange pas, je viens de terminer les corrections de mes copies. » Elle se figea en découvrant l'état de la tapisserie. « Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe avec tes murs? On dirait une maladie. À mon avis, tu devrais appeler un spécialiste. Il s'agit peut-être de champignons ou de quelque chose dans le genre. » Elle quitta la pièce pour se diriger vers le salon. Il la suivit. « Regarde-moi ça, dit-elle, c'est presque pire ici. » Les paroles de son ami accentuèrent l'angoisse de Julien Champier. Tant qu'il était seul à observer la progression de la rouille, il pouvait se convaincre d'être victime d'une hallucination. Mais à partir du moment où quelqu'un d'autre confirmait ses constatations, la chose devenait grave. Cela voulait dire que le phénomène se déroulait anormalement vite. « Je téléphonerai demain matin pour qu'on m'envoie quelqu'un, dit-il. « Oh, regarde !» La jeune femme s'était arrêtée devant la licorne. L'écrivain s'approcha. « Regarde, elle aussi est atteinte par la maladie. » La sculpture, en effet, commençait à se couvrir de la même rouille que les murs. Il passa un doigt dessus. De minuscules graines se déposèrent sur sa peau. Il les observa attentivement, puis alla se rincer la main. « C'est tout de même étrange, remarqua Sylviane, lorsqu'il revint de la cuisine. Tu ne veux pas venir vivre chez moi jusqu'à ce que ce problème soit réglé ? Ça me fout un peu la trouille, ce truc. » Julien regarda son ami en frissonnant. « Pourquoi pas, dit-il. Cette histoire commence à me faire peur à moi aussi. » Il transféra le fichier sur lequel il travaillait de son ordinateur de bureau au portable, et le couple abandonna l'appartement à cette étrange rouille. Les jours qui suivirent, Julien Champier retrouva sa quiétude et son inspiration. Son texte avançait bien. La société qu'il avait contactée pour son problème de mur n'enverrait pas quelqu'un avant une dizaine de jours. Maintenant qu'il vivait chez Sylviane, il n'était plus trop pressé. Lorsqu'il travaillait sur son texte, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'un roman, il éprouvait souvent le besoin de revenir en arrière pour mieux juger de l'ensemble. Il était rarement content du résultat. Cette fois, seule la première phrase le satisfaisait pleinement. En même temps, elle provoquait un étrange malaise. Il avait l'impression que c'était elle qui avait déclenché l'étrange lèpre ocre qui affectait les murs de son appartement. Quand il l'avait tapé sur son clavier, la rouille ne s'était pas encore manifestée. Du moins ne l'avait-il pas remarqué. Depuis, cette phrase ne cessait de tourner dans sa tête, revenant à la charge, même dans les moments où il ne pensait plus ni à son texte ni à son appartement. Des fragments de rouille humaine tombaient sur la cité en une pluie ininterrompue. D'où cette phrase avait-elle pu surgir? Et surtout, pourquoi en un tel moment? Il la chassa de son esprit en se forçant à relire une partie de son manuscrit. Un jour, avec le lever du soleil, l'ordre des choses changea. Surgissant des lointains embrasés par l'astre levant, arrivèrent quatre silhouettes de sombres vêtues, chapeaux à large bord et capes de cuir noir. Deux hommes et deux femmes, leurs bras nus étaient couverts de tatouages, des bagues et des pointes d'argent ornaient leurs mains, jamais on ne les avait vus dans la région. Un des hommes désigna de la main une bâtisse qui paraissait surgir de la nuit des temps. « Abraxananta, dit-il, d'une voix qui semblait plus animale qu'humaine, comme une sorte de feulement. » Ce disant, il porta son regard vers la tour gothique. Ses compagnons l'imitèrent aussitôt. C'est comme si chaque élément du petit groupe n'était qu'une partie d'un ensemble indissociable. « Danger !» dit l'une des femmes. Sa voix étonnamment basse avait également un côté animal. Tous quatre s'arrêtèrent d'un même pas devant le bâtiment qui semblait être leur destination. La porte s'ouvrit aussitôt, révélant un vieillard aux longs cheveux blancs. « Soyez les bienvenus, chasseurs, soyez les bienvenus !» Julien Champier sourit. Il se voyait bien accueillant l'homme qui devait étudier ses murs par cette phrase « Soyez le bienvenu, chasseur de rouille. » Décidément, il n'aimait pas ce texte. C'était la première fois qu'on lui demandait une nouvelle de fantastique gothique et il regrettait d'avoir accepté. Il ne se sentait pas vraiment à l'aise avec ce genre de récit. Son regard avança plus loin sur le texte. Immobile, retenant presque son souffle pour ne pas se faire remarquer, l'adolescent suivait des yeux l'étrange manège des dragons tatoués qui se déplaçaient d'un bras à l'autre des étrangers. Il devait posséder de bien grands pouvoirs et de bien grands secrets pour réaliser un tel prodige. Le plus grand des deux hommes leva la main droite. « Abraxananta !» Au même moment, l'adolescent poussa un cri de surprise. « Qu'y a-t-il, Samuel ?» s'inquiéta le vieil homme. Le miroir, regardez, il se couvre de taches noires. Il est en train de mourir, dit Yana, une des jeunes femmes. Les miroirs sont les yeux d'Abraxananta, ajouta la seconde jeune femme. En quelques secondes, le miroir s'obscurcit entièrement, avant d'éclater sans bruit en une fine poussière. Il sait que nous sommes ici. Nous devons agir vite, dit l'homme. Pendant la course du soleil, il ne peut rien faire. Nous devons en profiter. Abraxananta. Julien Champier se demanda une nouvelle fois d'où il avait tiré ce nom. Il avait beau fouiller dans sa mémoire, il n'avait pas souvenir de l'avoir rencontré lors de ses nombreux voyages à travers le monde. D'ici 2 jours, il aurait fini sa nouvelle. Lundi, il apporterait les dernières corrections et il l'enverrait à l'éditeur le lendemain, juste après le passage de l'homme qui devait venir examiner ses murs. Ce jour-là, Sylviane arriva plus tard. Elle avait un conseil de classe. Dès son arrivée, elle l'étreignit avec fougue. « Je suis morte, dit-elle. Heureusement que le week-end est là. Et toi ?»« Je suis en train de terminer. La Noria m'a téléphoné pour savoir où j'en étais. Je le renvoie ça à mardi. » Aucun des deux n'ayant envie de faire la cuisine, ils passèrent la soirée dans un restaurant du quartier. Ce fut une soirée détente, comme ils l'espéraient. Rien ne vint gâcher ce moment de tranquillité. Julien finit même par oublier ses angoisses des derniers jours. Ils rentrèrent à une heure fort décente. Ils avaient envie l'un de l'autre et passèrent une bonne partie de la nuit à faire l'amour. Ils recommencèrent au réveil et ils ne quittèrent le lit qu'en début d'après-midi. Après un repas léger et rapide, il reprit son travail. Le texte avançait tout seul. Sylviane, de son côté, préparait ses cours. L'après-midi se poursuivit en toute quiétude. Vers 19h, il sauvegarda une dernière fois son texte et éteignit l'ordinateur. Il avait pratiquement fini. Tout d'un coup, il se sentait mieux. Elle s'approcha de lui, l'embrassa tendrement, puis se recula soudain. « Hé, fit-elle, qu'est-ce que tu as au-dessus des sourcils ?» Il se frotta le front. Sur le dos de sa main, il vit de minuscules taches de rouille, semblables à celles qui recouvraient les murs de son appartement. Il se précipita dans la salle de bain et examina son visage dans le miroir. Il se passa de l'eau sur tout le visage, s'essuya, puis s'observa de nouveau. La rouille avait disparu. Il revint dans le salon, regarda le plafond. Il ne vit aucune trace anormale. « Je me demande d'où vient cette poussière ?» Sylviane le regardait avec inquiétude pendant qu'il examinait le clavier de son ordinateur. Aucune trace de la poussière ocre nulle part. « C'est vraiment étrange, dit-il. Que je sache, il n'y a pas de chantier dans la rue. » La jeune femme s'approcha de nouveau et observa son front, des sourcils à la racine des cheveux. Il n'y avait plus signe de présence de la rouille mystérieuse. « Tu sais, ça commence à me faire peur, cette sorte de poussière qui semble vouloir tout recouvrir. » « Moi aussi, dit Julien. Je ne sais pas d'où ça vient, mais cela ne me paraît pas naturel. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. » Au même instant, la première phrase de sa nouvelle envahit ses pensées avec force. Des fragments de rouille humaine tombaient sur la cité en une pluie ininterrompue. Il essaya de se fixer sur autre chose. Pensa au corps de sa compagne, ses seins ronds, ses cuisses fermes, mais la phrase revenait sans cesse à l'assaut. Il ferma les yeux. « Ça ne va pas ?» lui demanda Sylviane, qui l'observait toujours. « Je crois que la présence de cette poussière sur mon front m'a fichu un sacré coup. Je ne comprends toujours pas d'où elle provient. Je suis certaine qu'elle n'était pas là lorsque tu t'es mis au travail. » Machinalement, il passa une main sur son front. Il ne sentit rien d'anormal. Sylviane se saisit de sa main et allait y poser un baiser lorsqu'elle interrompit son mouvement. La rouille était là, juste à la jointure des doigts. Il vit la chose et retira sa main de la sienne en hâte. « Je crois que je devrais réintégrer mon appartement pour le cas où cette saloperie serait contagieuse. Je téléphonerai au docteur Lacroix lundi matin pour prendre rendez-vous. » Il prit son portable, posa un baiser sur les lèvres de son ami et se retira. Pendant son absence, les traces ocres n'avaient pas progressé sur les murs ou les quelques bibelots sur lesquels elles s'étaient déposées. Sans la présence de Sylviane à ses côtés, il se sentait un peu désemparé. Il prit une douche, puis se frictionna le corps avec de l'eau de Cologne, comme pour se purifier. Cette nuit-là, son sommeil fut agité. Il rêva plusieurs fois dans la nuit d'une licorne galopant dans le vent. Au réveil, il alluma son ordinateur pour finir son travail. Il bascula son texte du portable à la machine de bureau, puis consulta ses mails. Sylviane était présente avec un bref message. « Coucou Julien, comment va ce matin ? Tendresse et baisers. » Il répondit tout aussi brièvement et se mit au travail. Il devait finir ce texte une fois pour toutes. À midi, il posa le point final et sortit le texte à l'imprimante. Il en profita pour appeler Sylviane. Un peu de rouille était apparue sur son front et sur ses mains. Elle s'était également développée sur les murs, et les sièges eux-mêmes étaient piquetés de la fameuse poussière, si on pouvait appeler ainsi cette chose inconnue. Il passa une partie de l'après-midi à tout nettoyer. Le soir, en dehors des murs, les taches ocre avaient disparu du mobilier et des bibelots. Par contre, il avait beau prendre des douches, la rouille restait désormais incrustée dans sa peau. Alcool, eau de Cologne ou Pierre Ponce, rien n'y fit. Une fois de plus, il dormit très mal et le rêve de la licorne vint le hanter à plusieurs reprises. Le lundi, il se leva assez tard. La lèpre ocre s'était étendue à toutes les parties de son corps. Il n'avait pas de fièvre, juste une sensation de fatigue. Il repoussa son appel au docteur Lacroix au lendemain, après la visite du spécialiste des murs. Il relut son manuscrit, corrigea quelques phrases et décida de l'envoyer tel quel. Il n'avait déjà que trop passé de temps sur ce texte. Il envoya plusieurs mails, puis alla se coucher. Toute cette histoire le déprimait. Une fois de plus, la licorne traversa sa nuit à plusieurs reprises. Le mardi matin, il fut debout assez tôt. Il en profita pour revoir rapidement son manuscrit et taper une lettre destinée à l'éditeur. Il glissa le tout dans une enveloppe. La rouille avait encore progressé pendant la nuit, aussi bien sur les murs que sur les meubles et même le parquet. Lui-même en était recouvert de la tête aux pieds. À 10 heures, on sonna. Il alla ouvrir. Il recula en découvrant les 4 personnes de noir vêtues, identiques à la description qu'il en donnait dans son texte. Chapeau à large bord et cape de cuir noir, 2 hommes et 2 femmes. Les bras nus étaient couverts de tatouages, des bagues et des pointes d'argent ornaient leurs mains. Un des hommes le désigna de la main en disant « Abraxananta ». Julien Champier recula jusqu'à son bureau, tandis que sa peau se fendillait et éclatait de toutes parts. Il avait l'impression de se consumer. Son corps était brûlant. « Abraxananta », dit encore le chasseur de démons, tandis que Julien Champier se métamorphosait en une chose monstrueuse, révélant le véritable visage, l'apparence réelle de ce qu'il avait toujours essayé de contenir dans son enveloppe humaine, à savoir l'impitoyable démiurge capable de façonner des univers à sa guise, qui avait droit de vie et de mort sur ses créatures. Les chasseurs tendirent chacun une main en avant et la rouille se mit à tomber en pluie dans tout l'appartement. Des fragments de rouille humaine tombaient sur la cité en une pluie ininterrompue, pensa une dernière fois la créature qui avait été Julien Champier. Et elle se répandit à son tour en fines gouttelettes ocre sous les incantations prononcées dans une langue inconnue par les 4 personnages en noir. Un des chasseurs de démons s'empara du manuscrit et le déchira avant de le jeter sur le sol. La rouille s'empressa de le recouvrir et bientôt plus un seul mot ne fut lisible. « Abraxananta », dit une dernière fois l'homme, et le petit groupe quitta l'appartement silencieux.